Bonjour Julien Caillouette.
Bonjour.
Julien est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Vous nous parlez de culture pour commencer, crainte d'un point de non-retour pour les petits musées au Canada.
Oui, je pense que ma chronique va tourner un peu autour de la culture. Du moins au début, on s'est intéressé à la Journée internationale des musées qui a eu lieu le 18 mai, donc cette fin de semaine. On est allé voir les petits musées, voir comment ça se passait avec eux. On parle surtout d'établissements patrimoniaux et historiques qui rencontrent des grandes difficultés quand même. Il y a un manque de financement qui les empêche souvent de rénover leurs édifices ou ce qu'ils présentent un peu, qui sont souvent des choses plus vieilles. Tellement un manque d'argent qu'ils peuvent pas toujours chauffer en hiver, donc les musées sont ouverts seulement l'été. Donc, ils sont ouverts seulement quelques jours par année, ça réduit encore plus les revenus et ça augmente finalement la difficulté financière qu'ils vivent. Les sources de financement sont limitées et peu stables parce que ça repose surtout sur des projets ponctuels financés par le gouvernement. Là, il n'y a pas de financement continu pour ces musées-là. Et parfois, il y a d'autres difficultés. Par exemple, la société Vieille Maison en Nouvelle-Écosse, ne peut pas vraiment être reconnu comme un musée parce qu'il n'y a pas de toilettes dans la maison, dans ce qu'on pourrait considérer être le musée lui-même. Des petits musées dépendent aussi beaucoup des bénévoles, mais ils se font de plus en plus rares, puis la relève est difficile à trouver. Il est donc probable que plusieurs musées ferment dans les prochaines années. Plusieurs de ces petits musées-là, il ne faudrait pas s'en surprendre si ça arrive.
C'est bien triste comme nouvelle. Et une autre nouvelle inquiétante, cette fois qui concerne un joyau du patrimoine acadien, c'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Le Conseil international des monuments et des sites de la Division du Canada a lancé jeudi dernier une alerte internationale pour protéger l'église Sainte-Marie qui se trouve à la pointe de l'église en Nouvelle-Écosse. C'est un édifice exceptionnel qui est en fait la deuxième plus grande structure en bois au monde. La première est en Asie, c'est une pagode d'après ce qu'on m'a dit, mais donc c'est la plus grande en Amérique du Nord. Ça a été conçu par l'architecte français assez connu Arthur Regnault, qui, entre autres, fait des dessins de plusieurs églises et châteaux dans la région de la Loire en France, mais aussi l'église Sainte-Cœur de Marie à Québec. Le plan était fait pour une église en pierre. Ça a été envoyé à Clare, dans la région, dans la péninsule de la Nouvelle-Écosse. Mais les Acadiens là-bas, ils ne savaient pas trop comment travailler la pierre. Leur spécialité, c'était le bois puis la construction de bateaux. Donc, ils ont adapté les plans pour construire l'église en bois. Il y a tellement eu d'adaptations ingénieuses que l'église servait d'exemple ou sert encore parfois d'exemple dans des cours d'architecture pour montrer des idées d'adaptation ingénieuses.
Impressionnant.
L'église a été construite en 1905. Est en très mauvais état aujourd'hui. Elle ne sert plus depuis quelques années. Là, la dernière messe a été célébrée en 2019, si ma mémoire est bonne.
On le laissait puis, aller.
On n'en parle pas ici, mais j'ai lu un autre texte sur le courrier de la Nouvelle-Écosse. Là, ils ont fait du nettoyage au cours des derniers mois. Il y avait beaucoup de pigeons dans l'église et on s'en est débarrassé et on a nettoyé tout le dégât que ça avait pu faire. Il y avait un comité qui s'était formé il y a plusieurs années pour essayer de sauver l'église, de la sauvegarder. Ils n'ont jamais réussi à aller chercher ce financement et ils ont dû abandonner il n'y a pas si longtemps. Puis l'année dernière, l'archidiocèse de Halifax, Yarmouth, qui est propriétaire de l'église et du terrain, voulait la vendre, mais pour la vendre, les personnes ont voulu l'acheter dans l'état où elle était. Donc, on cherche à la faire démolir, mais c'est un bâtiment patrimonial reconnu par la Nouvelle-Écosse. Donc, pour la faire démolir, il faut faire enlever ce statut-là à l'église. Les démarches sont en cours, mais il y a un nouveau groupe de citoyens qui s'est formé au mois de novembre, qui est formé d'experts en patrimoine et d'architectes, entre autres, qui veulent tenter de sauver l'église. Ils ont approché l'archidiocèse. Ils sont en conversation. Pour l'instant, la demande de statut est peut-être suspendue. Là, on n'a pas eu de réponse claire de l'archidiocèse. Donc, le comité a réussi à avoir cet avis, cette alerte internationale-là du Conseil des monuments et des sites. L'objectif, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale, mais aussi des gouvernements du Canada, la Nouvelle-Écosse et local pour rappeler que c'est un édifice important pour l'histoire et qu'il faudrait trouver une façon de le sauver.
Complètement. un joyau, on ne laisse pas mourir ça. Vivre et vieillir ensemble en français, un projet de société, c'est dans Moniteur acadien.
Oui, il y a une semaine, en Nouvelle-Écosse, il y a une semaine au Nouveau-Brunswick ont eu lieu les états généraux sur le vieillissement en francophonie canadienne. Beaucoup d'organismes pour les personnes âgées qui ont participé à ça pour parler de différents sujets qui les concernent. Chez nous, à Franco-Presse, on a entre autres publié des articles qui vont sortir dans les prochains jours sur les aînés qui souhaitent continuer à travailler et la difficulté de vieillir chez soi en français. Du côté du Moniteur acadien, ils ont écrit à propos d'une conférence sur le vieillissement dans les communautés de plus en plus plurielles. Ils donnent l'exemple de personnes qui vivent dans des communautés rurales qui n'ont jamais ou presque jamais vu d'immigrants, donc de personnes d'ethnies différentes, qui arrivent dans des foyers de retraite, dans des centres de soins de longue durée. Et il y a de plus en plus d'immigrants qui travaillent dans ces centres-là comme préposés aux bénéficiaires. Donc, parfois, il y a un certain choc culturel qui peut survenir. La présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Philomène Zangio, a abordé cette situation-là dans une conférence en disant qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour favoriser l'acceptation parce que, comme je vous ai dit, les immigrants sont de plus en plus nombreux à travailler dans ces centres-là, puis ça ne va pas changer parce qu'on suit de plus en plus à l'immigration pour ça. Elle rappelle que pour bien vivre ensemble, il faut rappeler que chaque humain a droit à la dignité, il faut démystifier les stéréotypes et les préjugés, puis dénoncer des comportements discriminatoires pour favoriser l'équité.
Alors, maintenant, on passe à une nouvelle dans le droit, budget de l'Ontario, la francophonie mise de côté, point d'interrogation?
Oui, en fait, les franco-ontariens sont en bonne partie déçus du budget du gouvernement de l'Ontario qui a été présenté la semaine dernière. Le budget du ministère des Affaires francophones a en effet diminué de 2,7 millions de dollars par rapport à l'année dernière. Le nouveau budget contient 8,7 millions et 2,6 millions supplémentaires d'investissements temporaires. Donc, c'est pas sûr que ça va rester à ce niveau-là non plus. L'Assemblée de la francophonie d'Ontario avait, de son côté, formulé 10 demandes pour répondre aux besoins des 1,5 million de francophones et francophiles en matière de santé, de culture, de services sociaux, de développement économique et d'immigration. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a à peu près aucune de leurs demandes qui a été remplie là-dedans. Puis, une des grandes absentes, c'est l'Université de Sudbury qui attend toujours des nouvelles pour savoir si le gouvernement va accepter de la financer ou non. Il se prépare quand même à donner des cours en septembre, mais donc aucune annonce de financement de ce côté-là. Fabien Hébert, le président de la FO, souligne que le poids économique des Franco-Ontariens dépasse de loin leur poids démographique, même si il y a 5 % de la population qui est considérée francophone, il contribue à 12 % du PIB de l'Ontario. Donc, il aurait aimé voir un peu plus d'aide pour appuyer la francophonie.
Bon. La FO, qui est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, vous l'aviez aussi mentionné, je pense bien. Dans le franco, une autre question cette fois, est-ce qu'après 60 ans, l'immersion française est un succès?
Oui, c'est un peu un anniversaire que célèbre les cours ou la formation en immersion française au Canada. Puis, ça se célèbre avec des réussites et des défis. Premièrement, on peut considérer que le programme a été un succès. Ça a aidé beaucoup de jeunes anglophones à apprendre le français, à s'intégrer un peu à la vie bilingue et francophone du pays. Et le taux de participation au cours des 5 dernières années serait de 11 %. Donc, il y a 11 % des jeunes à l'école qui sont dans des programmes d'immersion. Le journal Le Franco présente d'ailleurs plusieurs jeunes qui ont appris le français dans les programmes d'immersion puis qui ont décidé de poursuivre leurs études en français au Collège Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Donc, on continue à alimenter plus que par l'immigration, la population francophone. Pour du côté des défis, comme je le disais, il y en avait. Le plus important, c'est le recrutement des enseignants. Oui, on a de la difficulté partout pour recruter des enseignants, et c'est le cas aussi dans les programmes d'immersion, tellement qu'on nous dit que parfois, il faut choisir entre quelqu'un qui est bon en pédagogie, mais dont le français est un petit peu moins bon, ou quelqu'un qui a un très bon français, mais qui a moins d'habileté en pédagogie.
Et pour terminer, encore un titre sous forme de question. Est-ce que les Franco-Canadiens utilisent encore le terme « maudit québécois »
C'est vrai qu'on pose beaucoup de questions cette semaine. Et celle-ci a été posée par
Vous êtes là pour ça, hein? On est là pour ça, oui, les journalistes, les animateurs.
Exactement. C'est le doctorant en anthropologie linguistique de l'Université de Montréal, Justin Labelle, qui s'est posé cette question-là. Puis ça a été présenté au congrès de l'ACFAS il y a 2 semaines, son projet. Donc, ce qu'il se demandait, c'est est-ce que le terme « maudit québécois » est encore utilisé par les Canadiens français? C'est un terme que lui avait entendu, il vient de Rouyn-Noranda, mais il avait de la famille à Sudbury, puis il avait déjà entendu ça. Et puis, si vous ne saviez pas que cette expression-là était utilisée par des Franco-Canadiens, je vous explique rapidement pourquoi. Ça remonte aux années 60, quand ont eu lieu les États généraux du Canada français. C'est vers la fin des années 60, 66, 69. C'est à ce moment-là que les groupes québécois ont commencé à vouloir revendiquer leur indépendance. Il y a eu une séparation un peu. On a dit aux Canadiens français, bien, on ne veut plus collaborer avec vous autres, on veut notre propre nation du Québec, et les Franco-Canadiens se sont sentis abandonnés par les Québécois à ce moment-là. Donc, il y a certaines colères qui ont persisté dans la population canadienne-française. Quelques années plus tard, donc, le terme désignait un stéréotype de Québécois égocentrique qui ne sait pas qu'il y a des francophones à l'extérieur du Canada ou qui ne comprend pas pourquoi ils sont là. Justin Labelle, lui, s'est promené en Ontario et au Manitoba. Il a rencontré beaucoup de francophones et puis il a constaté que, oui, le terme existe encore, mais c'était pas une blague dans le temps nécessairement. Maintenant, c'est plus considéré comme une boutade ou une blague. Dans toutes les villes où il est allé, il n'a pas senti d'animosité. Il a été bien accueilli. Il n'a jamais senti rejeté, donc ça allait bien pour lui. Et puis, ce qu'il a observé aussi, c'est que communautés francophones au Québec ont beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, surtout avec l'arrivée des immigrants qui, eux, ne connaissent pas et n'ont pas de lien avec l'histoire que je vous ai racontée. Mm-hmm. Donc, pour eux, un Québécois, c'est un Québécois, c'est pas un maudit Québécois.
Vaut mieux en rire. Mais non, en effet, je n'avais pas entendu cette expression-là. Je connaissais maudit français, mais pas maudit Québécois.
C'est pas mal le même principe.
Bien, merci beaucoup, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.